Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Belle et le Gamer, c'est l'épisode numéro 298. Bonjour Asa.
Bonjour Ben.
Nous sommes le lundi 23 octobre.
Bon, on est tous les deux malades.
Vous vous rappelez la semaine dernière quand j'ai dit qu'on était malade? Vraiment malade. Bienvenue, lundi 23 octobre 2023. C'est bientôt Halloween, c'est merveilleux, c'est la plus belle saison de l'année. Asa,
Je vais être toute seule pour Halloween.
Ouais, je me casse. Paris Games Week, venez voir votre Ben préféré. Je serai à la Paris Games Week pour vous faire des bisous.
Non, il ne faut pas que je leur fasse des bisous.
Je suis malade. Bon, venez pas à la Paris Games Week, je vais vous contaminer. La Belle Gamer, c'est toute l'actu des jeux vidéo avec moi-même Ben et ma chère Asa. Chaque lundi, on vous raconte nos péripéties sur les dernières sorties et on vous décrypte l'actu, les dernières infos brûlantes et les rumeurs les plus folles. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne Twitch, sur Twix et rejoindre la communauté sur notre serveur Discord. Pour nous soutenir, vous pouvez laisser un commentaire 5 étoiles sur votre app de podcast pour aider d'autres joueurs à nous découvrir. Vous pouvez également nous soutenir sur patreon.com/labelleetlegamer. Comme toujours, tous les liens utiles sont dans les notes de cet épisode. Ah, on va y arriver. Merci de votre soutien. Non, mais merci d'être là, merci de
nous écouter. Ça va bien se passer,
merci de votre soutien, ça va très bien se passer. C'est un épisode important, il y a plein de super jeux qui sont sortis, on va en parler.
Il y a des jeux pourris aussi.
Il y a des jeux pourris.
Enfin, il y a un jeu pourri.
Non, ils sont tous bien, on aime les jeux vidéo, ils sont tous trop bien. merci de votre soutien, merci à la communauté qui nous soutient sur Patreon. En particulier cette semaine, on dit merci à un nouveau Patreon qui nous a rejoint, merci l'Infect.
Merci l'Infect.
Qui porte pas très bien son nom, il est pas du tout Infect, il est très gentil.
On sait pas en vrai.
Bah si, parce qu'il était sur les streams et tout, il était
Mais oui,
cool,
il était sur les streams, il était cool, mais après peut-être
après,
qu'il
Après peut-être
est...
que dans sa vie privée...
Peut-être que dans sa vie privée, il est
complètement infect.
Il est infect, quoi.
Non, ah oui, alors les streams, continuez à nous suivre sur Twitch également, on est relativement actifs sur Twitch ces derniers temps, tous les mardis soirs, on a pris
Donc d'ici mardi, si tu n'es pas mort...
Voilà, mardi soir, il y aura un
stream a priori.
Ouais, on a pris l'initiative de... tester scientifiquement l'intégralité du catalogue de la Super Nintendo. Oui, non, c'est une méthode scientifique.
Tout à fait, le mot-clé étant scientifique.
Exactement. Tout le catalogue de la Super Nintendo, ça fait plus de 750 jeux et on est à fond dedans. Et on est bientôt à 50 jeux testés, donc
oui.
Cette entreprise progresse très bien, très satisfait. C'est tous les mardis à 20h30, donc soyez là sur Twitch. Ah, alors, on va rentrer dans le vif du sujet.
Ouais.
Si tu veux bien. Il y a pas mal de jeux qui sont sortis cette semaine. Il y a d'autres jeux qui étaient déjà sortis qu'on a continué sur lesquels on a un peu progressé. On va parler de tout ça.
Et oui.
On va commencer par une des plus grosses sorties de la semaine, c'est Super Mario Bros. Wonder. Mm-hmm. C'est pas mal.
Ah, c'est bien, ouais.
C'est pas mal. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un Mario en 2D. Mm. Alors quand je dis en 2D, c'est un raccourci, hein, c'est vue latérale. Alors évidemment, c'est de la 3D, mais vu avec la caméra bloquée de côté. Et c'est super.
C'est vraiment bien. Ouais.
C'est super, hein. Le Wonder du titre, tu peux le traduire par merveille ou par prodige. C'est un peu le thème du jeu, c'est-à-dire que c'est un jeu qui cherche tout le temps à te surprendre, à essayer de faire des trucs nouveaux, des trucs que t'as jamais vus. Et ça marche. C'est un jeu qui est bourré de nouvelles idées. Et c'est très cool. Alors, niveau gameplay, ça se joue comme un Mario, hein. C'est de la plateforme, c'est extrêmement précis, c'est extrêmement facile à prendre en main, c'est agréable à jouer. Tu sautes sur la tête de tes adversaires, c'est du Mario avec en pouvoir. Le principal nouveau pouvoir, donc c'est le Mario éléphant.
Oui, c'est vachement bien.
Tu peux te transformer en gros éléphant, donner des coups de trompe et arroser d'eau. C'est vraiment cool.
Ouais,
ça apporte du gameplay un peu marrant. Tu te bats différemment contre les ennemis, c'est bien. Il y a la fleur de feu qui revient aussi, ça c'est un classique. Mais le cœur de chaque niveau, en fait, ça va être leur système de fleurs prodiges. Mmh. Hein. Dans chaque niveau, en tout cas dans la plupart des niveaux, tu vas à un moment donné, tu vas tomber sur une fleur prodige qui va avoir un effet surprenant, un effet qui est différent dans chaque niveau. Il se passe jamais vraiment la
oui,
même chose.
Oui, c'est surprenant à chaque fois. Ouais.
Ouais, mmh. C'est toujours un truc un petit peu fou. Ça va déformer le niveau, ça va rajouter des trucs. Il y a un niveau où ça déclenche une pluie d'étoiles filantes. Alors du coup, t'as des dizaines et des dizaines d'étoiles qui rendent invincibles, qui tombent du ciel. Oh. D'autres trucs, ça va faire chanter les plantes piranhas.
Ah oui, c'était bien ça.
Voilà. Il n'y a jamais deux fois la même idée. Tu vois, c'est ouais. dans chaque niveau, la fleur prodige va faire un effet complètement différent.
Oui.
Et du coup, c'est excellent. Et le but du jeu de cette section prodige, c'est de récupérer la graine prodige qui est à la fin du truc. Mm. Et quand tu récupères la graine, le niveau redevient normal. Mm. Alors parfois c'est plus ou moins facile, hein. Parfois c'est juste une section à parcourir sous les effets du prodige, parfois c'est un petit peu difficile, c'est chronométré, tu l'as pas forcément à chaque fois, il faut recommencer le niveau si tu foires. Donc c'est des difficultés qui sont différentes, mais c'est toujours des surprises, c'est toujours des bonnes idées, c'est toujours fun, c'est vraiment agréable.
Non, mais même moi, qui suis pas très intéressée par ce genre de jeu, je trouve ça génial en fait.
Ah ouais.
Non, c'est vraiment d'une qualité assez exceptionnelle. Quoi.
Ouais. En fait, sur un jeu, il renverse complètement le style de jeu, parce que Mario, c'est le principe même du jeu ultra formaté, tu vois.
C'est
exactement ce qui se passe dans un Mario. Alors que là, non, c'est le principe, c'est de casser les règles tout le temps. Et c'est excellent.
Et puis c'est trop fou d'avoir des nouvelles idées à chaque fois, parce que t'es surpris à chaque fois. C'est vrai que Mario, voilà, comme tu dis, on a l'habitude de faire tout le temps la même chose. Et puis là, sur chaque niveau, c'est différent. Et sur chaque passage Wonder de chaque niveau, c'est différent aussi, quoi.
Ouais, ouais,
donc,
tout à fait.
Donc, c'est vraiment très inventif et vraiment super, quoi.
Ouais. Et alors, pour un truc qui est surprenant sur ce Mario aussi, et ça, c'est étonnant de la part de Nintendo, c'est le côté multijoueur qui marche bien.
Ah oui, c'est vrai.
Je veux dire...
C'est vrai que normalement,
Nintendo le multi, c'est pas leur truc.
C'est généralement une catastrophe.
C'est pas leur truc. Là, ils ont un multi qui fonctionne bien. Alors, j'avais déjà fait la blague quand ils avaient expliqué ce que ça serait le multi. Et c'est vrai que là, maintenant qu'on y joue, c'est un peu ça. C'est un multi qui rappelle Dark Souls.
C'est ça. Parce que t'as les fantômes des gens qui font le niveau en même temps que toi, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu vas lancer le niveau, si tu actives le multijoueur, c'est optionnel, hein, bien entendu. Tu actives le multijoueur, tu vas pouvoir jouer. Et en transparence, tu vas voir les fantômes d'autres gens qui sont en train de faire le même niveau que toi, en même temps que toi.
Ouais.
Donc c'est des trucs en direct. Il y a plusieurs interactions que tu peux avoir avec ces fantômes. Tu peux déposer par terre un panneau. Et en fait, si jamais un autre joueur qui est en train de faire le niveau en même temps que toi meurt, il a 5 secondes, il est dans une bulle pendant 5 secondes, un petit peu à la bébé Mario dans Yoshi Island. Il est dans une bulle pendant 5 secondes et il peut diriger sa bulle. Et s'il arrive à rattraper un panneau que toi tu as déposé, ça peut le ramener à la vie.
Ouais.
Tu peux aussi, toi, sauter sur sa bulle pour le crever la bulle et le ramener à la vie. Donc vraiment, si toi tu meurs par exemple, tu peux avoir une chance d'être ramené à la vie par un autre joueur qui est en train de faire le niveau en même temps. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a aussi eu, on a eu des interactions
vraiment marrantes. En fait,
il y a des petites emotes que tu peux faire. Et donc du coup, parfois, tu as un autre joueur qui est en train de faire exactement la même chose en même temps que toi. Et tu peux le voir trouver un raccourci ou un passage secret ou un truc comme ça. Et c'est marrant, on a eu des interactions où un mec était super content d'avoir trouvé un truc caché et tu sens qu'il fait des petites emotes pour te montrer, pour que tu fasses la même chose.
Ouais.
Et tu vas pouvoir le suivre, il te montre des trucs. Il y a un niveau qu'on a fait complètement à 100% avec un autre joueur.
Avec un autre joueur en même temps, ouais.
Chacun c'est trouvait rigolo. Des trucs. Regarde, là, j'ai trouvé un truc, il venait voir et tout. Et c'était très marrant. Ça faisait un peu une interaction sans pouvoir chatter, sans rien du tout, mais seulement en sautant, en faisant des petits gestes, des trucs comme ça, qui rappellent un petit peu... journée finalement, des jeux comme ça, où tu sais, le jeu où tu surfes sur le sable.
Oui, où t'es défoncé. Ouais,
ouais, ouais, mais t'avais un autre joueur qui venait et finalement tu jouais avec l'autre joueur sans possibilité d'interagir. Mais juste le fait d'être à deux à faire la même chose, c'était fun. Et là, ça marche bien. Il y a possibilité de verrouiller ce multijoueur de façon à ce que les fantômes que tu crois, ça soit uniquement tes amis.
Aussi, ouais, d'accord.
Donc tu peux faire un salon, tu peux dire, ah ben écoute, moi je joue à Mario cet après-midi, ah moi aussi, viens, on fait les mêmes niveaux, et à ce moment-là, les fantômes que tu vas voir, ça va être les fantômes de tes amis.
D'accord.
Voilà. Et après, t'as aussi un multijoueur local, jusqu'à 4 joueurs, chacun prend une manette, et on joue le même niveau tous ensemble.
Il n'y a pas de multijoueur en ligne.
Y a pas de, en dehors de ce truc de fantôme, ouais, non, il n'y a pas de multijoueur en ligne. Non, ça, il n'y a pas, par contre.
Non, mais c'est super, ce truc.
Ouais, c'est super, ça marche bien, c'est vraiment fun. Tu peux choisir ton personnage. Il y a tout un tas de personnages différents sélectionnables. Avec, ils se jouent tous de la même façon. Ils vont pas reprendre des concepts qu'ils avaient dans Mario 2, par exemple, où tu avais Luigi qui sautait plus haut et la princesse qui pouvait planer, des trucs comme ça. Non, ça, c'est tous les personnages, c'est les mêmes. Tu as Mario, Luigi, Peach, Daisy.
Toad,
tu as trois Toads. Tu as le Toad.
Toad bleu, Toad jaune et Toadette.
Et Toadette. Tu as pas le Toad principal.
Il est où, lui?
Je sais pas où il est. Bahamas, le Toad, Toad Prime, il est pas. Il est pas
invité. Non. C'est un connard, en fait. Personne l'aime, donc ils l'ont pas invité.
Et tu as toute une tripotée de Yoshi de toutes les couleurs. Et tu as l'espèce de. Je sais plus comment il s'appelle, le lapin creepy de New Super Mario Bros.
Crétin avec un masque.
Non, c'est pas un lapin crétin avec un masque, mais ça pourrait, quoi.
Ça ressemble.
C'est un lapin. En tout cas, la seule différence, si tu prends ce lapin ou alors n'importe lequel des Yoshi, c'est entre guillemets un mode facile. Les ennemis peuvent pas te faire de dégâts. Tu peux pas mourir des ennemis. En contrepartie, tu peux pas utiliser de pouvoir. Tu peux pas. Il y a pas de Yoshi éléphant ou de Yoshi fleur de feu.
Ah, c'est nul.
Voilà. Mais bon, c'est, si vraiment tu galères sur un niveau, tu dois passer un truc, tu peux basculer sur un Yoshi. Ça peut être aussi une solution pour des joueurs plus jeunes ou des trucs comme
ça. Oui, voilà, ça peut être une solution pour les enfants.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, si tu fais du multijoueur avec ton gamin qui est très, très, très jeune
et
qui
a du mal avec Yoshi.
Voilà, tu joues Mario et tu lui fais jouer Yoshi. Je crois pas que tu puisses monter sur le dos de Yoshi. Il faudra qu'on teste.
Pourquoi tu pourrais pas monter sur du Yoshi?
Je sais pas.
Quand t'es éléphant, non.
Ça serait un manque de respect.
Quand t'es éléphant, non. Parce que quand t'es éléphant, t'es très très gros.
C'est ça.
Mais...
C'est ça. Voilà. Après le jeu en lui-même, il est sur sa construction, la construction des mondes, il est assez intelligent. Alors t'as des successions de niveaux. Parfois t'as des zones où tu te balades sur la carte du monde. T'as des zones où tu te balades librement. Tu vas choisir le niveau que tu veux faire. T'es pas obligé de tous les faire, en fait, parce que pour débloquer l'accès à certains niveaux et l'accès au château final, il te faut un certain nombre de graines de prodige.
De graines, ouais.
Et les graines, tu les chopes en faisant la fleur de prodige dans le niveau et en finissant le niveau. Donc, la plupart du temps, il y a deux graines par niveau. Et tu as pas besoin de toutes les graines pour débloquer le château final et passer au monde suivant. Donc là aussi, c'est customisable en difficulté. À chaque fois que tu vas démarrer un niveau, c'est indiqué. Il y a un nombre d'étoiles qui va t'indiquer le niveau de difficulté du niveau. Donc voilà, s'il y a un niveau qui est trop dur, le fais pas. C'est pas grave, tu vas en faire un autre, tu vas choper tes graines ailleurs et tu vas pouvoir progresser. Donc c'est pas un jeu qui cherche à te bloquer, mais c'est un jeu qui donne par contre des défis, des trucs à faire pour les gens qui veulent un petit peu de difficulté, qui veulent tout trouver.
Ah oui, après pour les obsessionnels, ça marche aussi. Hein.
Si tu veux faire 100%, tu peux faire 100%. Il y a trois pièces violettes à trouver dans chaque niveau. En fait,
il y a aussi des trucs cachés. Il y a des trucs cachés.
Il y a des sorties secrètes.
Il y a
des sorties secrètes qui rappellent vachement Super Mario World.
Qui donnent accès à des endroits secrets la map.
Ouais,
hein.
Ouais, tout à fait. Et parfois des gros endroits secrets. Ouais. Hein, je veux dire, on a fait un niveau.
Il y a un monde secret, en fait.
Il y a même un monde secret.
Il y a un monde secret auquel tu accèdes par des sorties secrètes de niveau.
Et on a trouvé une sortie secrète comme ça avec Asa parce qu'il y avait un truc qui m'intriguait. Alors on a creusé un petit peu, on a finalement réussi. Et du coup, ça a amené à un endroit secret du monde. Et il y a eu un niveau, deux niveaux, trois niveaux, quatre niveaux. Tu vois, ça enchaîne. C'est toute une section du monde qu'on a réussi à débloquer comme ça. Donc c'est plutôt cool de tomber sur des choses comme ça. Et tu as un journal qui fait la liste des stages, la liste des niveaux. Il va te dire, voilà, dans celui-là, t'as tout trouvé. Dans celui-là, t'as pas tout trouvé. Donc retourne-y pour essayer de tout choper, quoi. Donc c'est voilà, si tu veux finir le jeu à 100%, si tu veux vraiment être à fond sur le truc, c'est possible aussi, quoi.
Ouais.
Voilà. Le niveau musique, il est excellent. Niveau graphisme, il a énormément de charme. Les animations sont excellentes.
Oui.
De que ça soit tes personnages ou les ennemis, ou tout est très très bien animé. C'est un jeu Mario.
De haut niveau.
De très haut niveau. Et c'est ce qu'on n'avait pas. C'est ce qui, après, les jeux, les New Super Mario Bros. Qui étaient sortis sur Wii, sur Wii U, ils étaient corrects, mais ils innovaient pas énormément, tu vois. Ils étaient, au contraire, ils étaient très formatés. C'était vraiment un retour à Mario. Voilà, c'était très sage à tous les niveaux et c'était. Bon, il y avait des bonnes idées, tu vois, mais c'est vraiment un étalage de nouveautés. Ce qu'ils ont fait pour la conception du jeu. Il l'avait expliqué en interview, c'est que il y avait pas de barrage au sein de l'équipe de développement sur qui pouvait venir avec des idées, tu vois.
Ouais, ça c'est bien ça.
En principe, une équipe de développement, bah voilà, moi je travaille sur les graphismes, moi je travaille sur le son, voilà, et moi je suis game designer, c'est moi qui ai les idées et vos gueules quoi.
Ouais, mais non, c'est pas cool.
Voilà, et ils avaient dit non, là par contre c'est porte ouverte, c'est n'importe qui. Si le balayeur a une idée, tu l'écris sur un papier, voilà, on réfléchit à tout. C'est tout le monde et du coup ça a ramené à une vague de créativité bien dans sûr. Le jeu qui se ressent. Et ils ont dit qu'il y a énormément d'idées qui viennent de l'équipe de l'équipe qui fait les sons.
Par exemple, oui.
Mais par exemple, sûr. Tu vois, c'est. Mais pourquoi pas ?
Les idées, ça peut venir de n'importe qui et de n'importe quoi. Enfin, je veux dire.
Exactement.
Tu sais jamais d'où ça vient, quoi. Donc,
exactement. Et donc, ça se voit. Et c'est vraiment un jeu qui repose là-dessus, sur les idées, sur la surprise, sur des trucs que tu n'as jamais vus, pour pas que tu t'ennuies et tu aies envie d'enchaîner les niveaux parce que tu as envie de voir le nouveau truc fou que tu vas voir dans le niveau d'après, quoi.
C'est ça.
Et ça marche bien. Voilà. Super Mario Bros. Wonder. Voilà,
donc, disponible on a encore un très gros candidat pour le jeu de l'année. Là.
Je suis fatigué. Le jeu de l'année. on va pas le faire cette année parce que ça va être.
On va pas le faire.
Ça va être compliqué. Ouais, non, le jeu de l'année, ça va être intéressant cette année. Autre candidat pour le jeu de l'année, Spider-Man 2.
Oui.
Oui, non, oui.
Oui et non, dans le top, mais pas forcément jeu de l'année. Quoi.
Bah, alors, peut-être pas numéro 1, mais encore une fois...
Dans la discussion. Oui.
Spider-Man 2, on a commencé à en parler la semaine dernière, on avait Economy en invité qui nous racontait son aventure sur le jeu, il avait fini. Là, il est sorti ce vendredi, on a pu...
On a pu jouer, oui.
On a pu jouer aussi, c'est... Comme la plupart des jeux que sort PlayStation là sur cette génération de consoles, Spider-Man 2 c'est à la fois une énorme claque et une petite déception.
Oui, parce que c'est très comparable au premier,
voilà.
Quoi.
C'est un jeu fantastique, Spider-Man 2. C'est vraiment excellent. Visuellement, c'est incroyable. C'est de la mise en scène, c'est une histoire, c'est des personnages. C'est vraiment une très, 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 très grosse production. Le bémol que j'ai, c'est que j'y ai déjà joué.
C'est ça.
C'est Spider-Man, c'est le même jeu. C'est les combats. Alors, il y a des petits trucs en plus. Les combats, tu fais, ah oui, mais tu vois, les gadgets, c'est pas les mêmes. D'accord, ok.
Ouais, mais
c'est
bon,
les mêmes combats. Pareil. C'est les mêmes combats, c'est la même ville, c'est les mêmes trucs. C'est
le même principe principe. Ah là, il y a un crime, les alertes crimes.
Voilà,
les
crimes. Alors, c'est présenté légèrement différemment. Ouais. Et voilà. Ok, c'est le même jeu. C'est plus du même jeu, de la même façon que Horizon Forbidden West, c'était plus de Horizon. God of War Ragnarok, c'était plus de God of War.
Exactement.
Et c'est pas forcément une mauvaise chose, tu vois, parce que c'était
non,
des très bons jeux.
Ça fait plaisir de revenir. Moi, quand tu l'as lancé, ça m'a fait plaisir, tu vois, de retrouver Spider-Man, New York, machin, mais au bout de quelques temps, tu te dis, ouais, bon, bah, c'est le même jeu, c'est cool, mais c'est la même chose.
Ouais, voilà. Et heureusement que c'était des jeux exceptionnel.
Exactement.
À l'origine, donc du coup ça fait plaisir de revenir, mais quand tu es tout en haut du gratte-ciel, agrippé au sommet du gratte-ciel sur l'antenne, et que tu vois le coucher de soleil, et que t'as cette musique qui est la même musique, tu dis, ah, ouais, ok, c'est super,
mais j'ai déjà fait il y a 3 ans, quoi.
Il y a 5 ans, et oui, non, ça, le temps passe, hein.
Il y avait Miles Morales aussi.
Qui était le même.
Oui, ah non, ils ont fait 3 fois le même, hein, on est d'accord.
Là, on n'a pas terminé le jeu, on est loin d'avoir terminé le jeu, mais d'après donc à Economy qui était là la semaine dernière qui nous racontait, c'est un jeu qui met en place très clairement un Spider-Man 3.
Et ça
sera encore le même, mais bien sûr,
Et
ça va, tu vois, et ça va rajouter des choses. Alors c'est pas les mêmes méchants, c'est pas la même histoire, et c'est cool d'avoir des nouvelles histoires dans cet univers-là qui est excellent. Mais il y aura pas de surprise, tu vois, c'est quand tu compares à Super Mario Bros. Wonder qui est là pour mettre de la surprise à tous les coins, là par contre, non, c'est pas de surprise. C'est la suite de l'histoire, c'est la suite de ce qui arrive à ces personnages-là, dans cet univers-là, dans cette ville. Et c'est des missions en plus, avec des raffinements. Hein. C'est très joli, c'est technologie de la PS5. Alors, c'est plus fluide, les effets de lumière sont un petit peu... quand tu compares, si tu compares vraiment côte à côte des captures d'écran, tu vas dire, ah oui, c'est un peu plus joli. Mais il faut vraiment comparer près, tu vois. Je peux te mettre au défi de te mettre une image de Spider-Man 1 et une image de Spider-Man 2. Enfin, voilà, si t'as pas l'œil exercé, c'est compliqué de dire lequel est lequel. Et c'était la même chose pour God of War et Ragnarok, c'était la même chose pour Horizon et Forbidden West. Tu vois, c'est... Mm.
C'est vrai.
Il n'y a pas de prise de risque. Mais c'est sauvé par le fait que l'original était un jeu exceptionnel, le nouveau Spider-Man 2 est un jeu exceptionnel.
Tu t'amuses. Mais bon, c'est vrai que c'est des choses que tu as déjà fait, donc c'est un peu dommage. Après, ce qui est intéressant au niveau histoire aussi, c'est que tu as à la fois Peter Parker et Miles Morales. Mmh. Donc ça, c'est aussi sympa parce que chacun... tu varies un petit peu, hein, chacun a sa trame et sa rencontre, etc. Ah ouais. Donc c'est sympathique d'avoir deux personnages.
T'as deux personnages et tu peux passer à la volée de l'un à l'autre.
Et puis voilà, chacun a son histoire, chacun est en train de faire son truc, donc c'est sympa. Mais bon, c'est pas le truc le plus fou du monde entier, quoi.
Ouais. Non, c'est sympa. Mmh. Et la relation entre ces personnages, l'histoire est bien. Pour un fan de comics, l'histoire est super. La performance des acteurs est exceptionnelle. Et c'est les forces des jeux des studios PlayStation. C'est toujours ça qu'on a
dans
ces jeux-là. Et ça, c'est quelque chose que tu trouves sur PlayStation et pas ailleurs. Hein. Xbox, ils aimeraient bien avoir des jeux de ce niveau de production. Ils n'en ont pas encore pour l'instant, hein, malgré des Starfield et des trucs qui sortent.
Non.
Ça n'arrive pas à ce niveau-là.
Tout à fait.
Mais voilà. Après... Voilà, il y a rien d'exceptionnel, mais tout est très bien fait, tu vois. Je veux dire, la possibilité de changer de personnage à la volée, t'es en train de jouer, tu joues Peter Parker et tu dis bon, maintenant j'ai envie de jouer un petit peu en tant que Miles Morales. T'appuies sur un bouton, ça switch.
Mais parce qu'ils font pas la même chose les deux quand même. Ils ont des pouvoirs un petit peu différents.
Ils se battent de façon un petit peu différente, la vibe est un petit peu différente et chacun a ses alors.
Parce que Peter, il a le truc de l'araignée mécanique, là,
et
Miles,
après,
il a l'électricité, c'est ça.
Après, il débloque...
tu débloques des trucs, mais au départ...
Il débloque d'autres trucs, hein. C'est pas un spoiler, ça a été la base de tous les trailers, hein. Spider-Man, Peter Parker, il débloque les pouvoirs de Venom.
Ouais.
Alors que Miles Morales, lui, il est sur ses pouvoirs à base d'électricité, qu'il va développer également dans le jeu. Donc, c'est des styles de jeu complètement différents. Mmh. Alors, tu peux avoir envie de faire... Là, j'ai envie de faire un petit peu ce type de gameplay, ou alors cet autre type de gameplay.
C'est sympa.
Ou alors j'ai envie de poursuivre l'histoire personnelle de Miles, parce qu'il a des trucs qui tournent autour de son lycée, il a des trucs qui tournent autour de sa communauté, donc il va avoir ses quêtes secondaires à lui, alors que Peter Parker va avoir ses quêtes secondaires à lui.
C'est ça.
Et donc chacun ses trucs, et ils vont se retrouver sur un tronc commun, sur cette quête principale, qui va être parfois, et là ça va être piloté, parfois tu vas être dans la peau de Peter, parfois dans la peau de Miles, selon ce que le scénario impose. Et voilà, donc du coup, t'as toutes ces histoires qui s'entremêlent, qui se croisent, c'est vraiment pas mal.
Non, comme dit, c'est fait, c'est très bien fait, on va dire, c'est parfaitement fait, mais il n'y a pas de surprise.
Mais,
pas de changement, il n'y a pas de surprise.
Ce qui est en place, bien qu'il n'y ait pas de surprise, c'est impeccable.
C'est impeccable, tout à fait.
Impeccable, il n'y a absolument rien à dire. Les combats sont fluides, les gadgets sont différents, ils sont intéressants, mais voilà, tu as toutes les choses que tu t'attends à un Spider-Man, tu as plein de costumes différents que tu peux débloquer, tu as des arbres de talent qui te permettent de développer un petit peu ton truc, avec un arbre de talent pour Miles, un arbre de talent pour Peter et un troisième arbre de talent commun. Ce qui est malin, l'arbre de talent commun, c'est tout ce qui va dicter la façon dont tu te déplaces, dont tu te balances sur tes toiles, des trucs comme ça. Parce que ça aurait été bizarre d'avoir des trucs de déplacement pour l'un et pas pour l'autre.
Bien sûr,
je me balance d'immeuble et puis je tourne le coin. Ah bah non, je peux pas parce que je l'ai pris avec Miles, mais je l'ai pas pris avec Peter.
Ça aurait été bizarre.
Ça aurait été très bizarre, mais voilà. Et après, par contre, les arbres de talent de compétences spécifiques, c'est pour leurs compétences spécifiques. Tu vas améliorer les trucs électriques de Miles sur son arbre à lui. Donc ça a quand même une logique, hein. C'est plutôt pas mal. Les activités annexes, elles sont basiques, elles sont nouvelles, hein, c'est la plupart. Mais voilà, de temps en temps, tu vas tomber, tu vas prendre des photos, tu vas résoudre des petites énigmes. Il y en a certains qui sont dédiés à Miles, d'autres qui sont dédiés à Peter, hein, comme d'habitude. Mais du coup, tu vas pouvoir débloquer des choses. Et voilà, tu as la carte de New York, un petit peu plus grande. Tu as Manhattan, mais tu as aussi une partie du Queens, une partie de Brooklyn.
Ouais.
Donc, tu vas te balader dans d'autres quartiers. Et à chaque fois, dans les quartiers, tu vas faire les activités. Tu vas remplir une barre de progression qui va te permettre d'avoir des bonus, qui va pouvoir te permettre de fast travel. Tu peux fast travel où tu veux. Et c'est complètement instantané. C'est assez... assez dingue. Quand tu fast travel, en fait, je crois qu'il y a un mec qui a chronométré entre le moment où tu commences à appuyer sur le bouton, parce qu'il faut le laisser appuyer pendant une seconde pour valider, et le moment où tu contrôles ton personnage à l'endroit où tu voulais aller, il se passe une seconde et demie.
Ah oui, c'est assez fou.
Donc c'est très rapide. Non, c'est un jeu qui est bluffant. C'est un jeu qui fait progresser cette histoire, cet univers de Spider-Man. Alors, c'est marrant, on se faisait la réflexion parce que bon, il y a les films de Spider-Man.
Parce que le week-end dernier, tu m'as fait regarder
le Spider-Verse, le dernier. Le nouveau film animé sur Miles Morales.
Ouais, donc du coup, on se mélange un petit peu les pinceaux.
Il y a les films de Tom Holland, il y a ces jeux auxquels on a joué il y a un petit moment. Maintenant, Miles Morales. C'était à la sortie de la PS5, le premier Spider-Man, c'était il y a 5 ans, donc il se passe du temps. Et donc du coup, on mélange un petit peu. Je fais, ah oui, mais alors l'oncle de Miles, dans cette version, il est mort, il est gentil, il est méchant.
Ouais, c'est ça, c'est un peu le bordel hein, quand même, avec tous les trucs différents qui traitent des mêmes personnages et des mêmes histoires. C'est un peu compliqué, mais bon, écoute.
Tu t'adaptes vite. Hein.
Ouais.
On voit Harry Osborn, on voit son père
Norman Osborn,
et toi, la question qui me fait, mais c'est pas le bouffon vert Norman Osborn? Non, c'est dans les films de Sam Raimi, c'est le bouffon vert. Là, dans les jeux vidéo, c'est pas, pour l'instant non, c'est pas voilà, c'est, donc tu vois, il y a des petites différences, mais bon, c'est l'heure d'histoire de multivers, on s'y adapte quoi. Assez très envie de retourner à jouer à Spider-Man, c'est extrêmement plaisant quoi. Donc, voilà. Critique qu'on entend un petit peu à gauche à droite, pour l'instant je l'ai pas, c'est que le jeu est trop court.
Ah bon?
Par rapport à un prix.
On est à 80 euros.
On est à 80 balles. On est à 80 balles sur le jeu, évidemment. C'est une grosse production de Sony, on ne coupera pas aux 80 euros. Après. J'attends d'avoir fini le jeu pour juger moi-même. Les jeux trop longs, ça me passe un peu au-dessus de la tête maintenant. J'en peux plus des jeux trop longs à rallonge. Il y a tellement de trucs qui sortent que je peux pas passer 50, 60, 80, 100 heures sur un jeu.
Après, ça dépend de la philosophie. C'est sûr que si t'es un jeune et que tu mets tout ton fric Spider-Man 2, t'as envie qu'il soit long. Si c'est le jeu
que tu achètes dans l'année...
Dans l'année ou dans les 6 mois, t'as envie qu'il te dure. Hein, donc forcément, ça fait chier que ce soit court. Mais ouais, après, pour nous, ouais. Pour nous, plus c'est court, plus on est content. Mais
putain, il y a Spider-Man et Mario qui sortent en même temps. J'ai 4 jours pour le terminer avant de commencer Alan Wake. C'est beau, quoi. Voilà, quoi. Go, faut enchaîner. Non, c'est sûr. C'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais préféré Miles Morales à Spider-Man pour ça, parce que Miles Morales, c'était un jeu plus court, c'était vraiment un jeu qui allait à l'essentiel.
Ouais, mais il coûtait pas 80 euros, Miles Morales.
Il était moins cher, ouais, il était moins cher.
Et voilà, c'est ça.
C'était un DLC de luxe.
Il coûtait 50 euros ou un truc.
Je sais plus
ça,
le prix, hein, mais il était moins cher. Mais du coup, voilà, c'était un jeu qui allait à l'essentiel, qui allait pas te rajouter des missions. Et ça, il y en a un petit peu dans Spider-Man 2, j'en vois déjà, alors qu'après, il n'est pas long, des missions, entre guillemets, filler, où il ne se passe pas grand-chose, c'est de l'exposition, tu vas marcher au pas dans un environnement, alors c'est très joli, tu regardes à gauche, à droite, tu fais, oh, le laboratoire, machin, c'est très beau, et on peut interagir avec tous les trucs, et tu ne peux pas courir, tu ne peux pas sauter, tu ne peux pas machin, et tu as un autre personnage qui te raconte sa vie, et ça dure des heures et des heures et des heures. J'exagère, tu vois, mais... Voilà.
Oui, mais ça, c'est dans l'histoire, quand même.
Oui, c'est dans l'histoire, tu vois, c'est...
Non, mais je veux dire, c'est normal de mettre en scène un peu le truc, quoi.
Évidemment, évidemment.
Mais c'est vrai que ça te bouffe du temps pour rien.
T'as regardé deux personnages se parler pendant 35 minutes et t'as pas trop joué, quoi, tu vois.
C'est vrai.
Des scènes comme ça, il y en a, évidemment. Il y a aussi beaucoup de combats. Bah c'est normal, c'est le jeu, hein, je veux dire. Mais
après, il y a pas mal d'alertes, machin. D'ailleurs, on a fait. C'était rigolo. Il y avait une alerte où on a fait un combat contre des gens qui voulaient faire exploser
un truc de crime,
un camion-citerne de. de pétrole, quoi. Hein, ouais. Et donc on change, on était sur Miles Morales, on change, on passe sur Peter Parker, il y avait exactement la... Alerte crime, même mission.
Le même truc, ouais.
Et donc c'était un petit peu...
Alors ce qui est rigolo, c'est que quand tu joues par exemple Miles Morales, tu vas intervenir sur un crime en cours, et quand tu arrives sur place, il y a déjà l'autre Spider-Man qui est en train de se battre, qui était arrivé avant toi et tout, et donc du coup c'est des combats où tu fais à deux,
rigolo,
et du coup tu as des combos qui se font à deux, des trucs comme ça, c'est dynamique, et après tu tapes dans la main et tu repars, c'est fun, c'est rigolo, c'est bien mis en scène. Allez, on va pas passer plus de temps sur Spider-Man cette semaine. On aura l'occasion d'en reparler, évidemment. Troisième sortie de la semaine, on reste dans les classiques. Hein, on a un nouveau Sonic qui est sorti cette semaine, Sonic Superstars. Donc ça, c'est marrant quand même qu'on ait un Sonic en 2D qui sorte à littéralement deux jours d'un Super Mario en 2D.
Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée stratégiquement.
Stratégiquement, c'était peut-être une erreur. On va pas dire pour lequel des deux.
Bon, on remercie quand même l'éditeur de nous avoir fourni
Sega,
un exemplaire de Sonic.
Merci Sega pour Sonic qu'on a pu tester.
Malheureusement,
Sonic, c'est sorti en même temps que Mario. Ça met en avant tous les problèmes que Mario aurait pu avoir,
mais n'a pas.
Qu'ils ont réussi à ne pas avoir, mais que Sonic a. C'est-à-dire que Sonic Superstar, c'est vraiment un Sonic en 2D. Et quand je dis en 2D, voilà, on a compris, c'est vu de côté, hein, mais c'est des modèles 3D qui se baladent dans un décor, mais c'est vu de côté. Donc c'est un jeu qui veut un petit peu jouer sur la nostalgie, invoquer un petit peu les sensations de jeu qu'il y avait à l'époque de la Mega Drive, hein, à l'époque des Sonic classiques en 2D.
Et là, justement, on revient sur quelque chose qui ressemble exactement à ce que c'était les Sonic avant.
C'est un jeu qui met bien en avant le fait que c'est très, très, très difficile de faire un bon Sonic. Le level design, c'est difficile de faire quelque chose qui marche parce que tu as toujours cette dualité dans Sonic de vouloir aller très très vite parce que tu joues Sonic, hein, il faut aller vite, il faut se mettre en boule et il faut faire des loopings et tout, c'est trop cool. Mais t'as aussi envie d'explorer.
Oui.
Il faut qu'il y ait un flow naturel qui te permette d'aller vite sans forcément te prendre des ennemis placés que.
Oui, ça, tu les prends tout le temps, toi.
Tu les prends tout le temps, mais parce que je veux dire. T'as pas le temps de les voir, tu vois.
Dès que t'atterris, tu prends un mec dans la gueule.
Voilà. Et parfois, t'as envie d'explorer, alors
c'est difficile.
C'est un jeu qui est pas trop fait pour explorer, c'est un jeu qui est fait pour aller vite et pour rouler, pour avancer.
Ouais, mais du coup, tu rates des trucs. Alors,
c'est un petit peu. Il est un peu frustrant. Manette en main, il est frustrant, en fait. Tu sais pas trop comment le prendre. Ouais. Donc voilà. Et après. Je vais avouer, hein, j'ai toujours été, même gamin, j'ai toujours été plus Mario que Sonic, ça n'a jamais été ma préférence. Mais là, on a un Sonic qui ne fonctionne pas trop. Et ce n'est pas parce que je n'aime pas Sonic, ce n'est pas vrai que je n'aime pas Sonic, mais on va comparer à ce qui est comparable. Il y a quelques années, on a eu Sonic Mania, qui était le même principe, c'est-à-dire essayer de refaire un Sonic de côté en 2D, et Sonic Mania était vraiment excellent.
D'accord.
Je veux dire, quand c'est bien fait, ça marche.
Oui, là, je sais pas, c'est... On dirait qu'il y a... Je sais pas, qu'il n'y a pas eu trop quand même de... Le jeu, au contraire de ce qu'on disait, par exemple, sur Spider-Man, où c'est un truc qui est... Où ils refont la même chose, mais de manière parfaite, là, Sonic, c'est le contraire, quoi.
Ouais.
On dirait qu'ils n'ont pas mis assez de moyens pour que le jeu soit parfait. Et un jeu comme ça, en 2D, qui joue sur la nostalgie, justement, qui reprend quelque chose, une recette qui est vieille, entre guillemets, il faut que ce soit parfait.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Et là...
Tout est un peu de seconde zone, la musique est bof. Graphiquement, il est joli, hein, Sonic, le modèle 3D...
Mais pas fou non plus.
Pas
quoi.
Fou non plus, mais... Alors, on va. Tu parlais de mettre les moyens, on va analyser un petit peu ce qui se passe en interne sur la production d'un jeu comme ça. Sega a confié le développement de Sonic Superstars à un studio qui s'appelle Arzest. Arzest, c'est le genre de studio que tu appelles quand voilà, tu as un petit projet, tu veux le sous-traiter, tu n'as pas d'équipe interne pour le faire et tu sous-traites. Donc, il y a plein de studios comme ça qui te font des jeux sur commande.
Oui, donc du coup, c'est un peu...
Arzest, ils existent depuis la nuit des temps. Hein. Ils avaient fait... pour Nintendo, ils avaient fait Yoshi's New Island sur DS ou 3DS. Hein. C'était un Yoshi Island pour portable. Mm-hmm. Donc tu vois, c'était clairement ça. C'était, voilà, on a un concept, Yoshi's Island, c'est un jeu Super Nintendo, ça marche bien et tout. On aimerait une version portable. Vous nous faites ça tranquillement. Et ils l'avaient fait. Et ça avait, et le résultat, ça a été un Yoshi Island qui reprend les codes de l'original, mais sans apporter la petite étincelle qui fait que c'est un jeu excellent. C'est juste un truc qui suit un modèle classique et qui apporte aucune surprise. Le studio fait le job et pas plus.
Ce qui est logique aussi, hein, je veux dire, ils font ce qu'on leur demande. Et Sega qui demande à Arzest de faire un jeu pour eux, ils savent très bien à quoi s'attendre aussi.
Voilà. Arzest, c'était également les co-développeurs avec des équipes internes de Square Enix de Balan Wonderworld. Mm-hmm. Balan Wonderworld, Square Enix est venu avec les idées en disant voilà, on veut un jeu qui fait ça, et pour le développement technique, ça a été Arzest.
Ça fout mal sur le CV, ça. Hein.
Ouais, voilà, c'est une tâche sur le CV. Mais c'est pour que tu vois un peu le type de studio que c'est. Et le résultat est là, c'est-à-dire qu'ils ont fait le job, ils ont fait un Sonic, ça ressemble à Sonic vu de loin, effectivement.
Mais voilà ce que je comprends pas.
C'est pas. Ça marche pas. Tu vois,
non, ça marche pas.
Ça accroche pas.
Ça accroche
pas. Ça n'a pas la précision que doit avoir un Sonic.
Mais déjà, tu confies ce projet-là à un studio qui est quand même de seconde zone, hein, puis, enfin, pas de seconde zone, mais bon, qui est sous-traitant, que c'est pas toi. Enfin bon, voilà, c'est une commande de quelque chose, comme dit, qui est déjà mis sur le papier à quelqu'un, donc il n'y aura pas de. Comme dit, d'étincelle, de nouveauté, de quoi que ce soit. Ouais. Il y aura pas de travail créatif, il y aura pas, ça sortira pas de Sega vraiment quoi. Donc voilà,
c'est dommage.
C'est un projet qui a été traité quand même comme un peu par-dessus la jambe quoi.
C'est dommage de traiter un de tes ta mascotte finalement Sega, hein, une de tes grosses licences comme ça et pas se mettre les moyens, surtout à une période où Sonic est plutôt populaire en ce moment.
Bah hein, oui, le film avait bien marché.
Le film avait cartonné. Sonic chez les plus jeunes, c'est un carton.
C'est dommage de pas profiter de ça, et en plus en sortant ce jeu en concurrence directe avec le nouveau Mario.
Ouais.
Enfin c'est ridicule quoi.
Ah oui, ça, c'est le frontal.
En
c'est...
sachant que tu sors un jeu qui est seconde main, voilà, tu le mets en concurrence directe avec le nouveau Mario qui est incroyable. Non, passe pas.
Il faut avoir un niveau, je sais pas si c'est de l'arrogance ou quelque chose, mais de pas comprendre que si tu vas en frontal avec un autre jeu, c'est pas toi qui gagne. Je veux dire, même si tu as confiance en ton propre projet, il y a eu des interviews de cette semaine, c'est un truc similaire, de l'équipe de développement de Tekken 8 chez Bandai Namco, qui avait dit très clairement, non, nous, Tekken 8, on prend le temps de le faire tranquillement, on peaufine, on prend très longtemps de profiter, on s'est fixé une date de sortie en janvier, on aurait pu le sortir beaucoup plus tôt, c'est clair et net, mais on avait Street Fighter, on avait Mortal Kombat,
bien
on
sûr.
Non,
c'est pas la peine,
voilà,
se calmer quoi.
Si tu laisses à ces jeux qui s'adressent au même public la place pour respirer, tout le monde est gagnant.
Mais bien sûr.
Tout le monde est gagnant. On n'est pas là pour faire la guerre. Ils sont pas là. Tekken 8, c'est pas un jeu qui est là pour couler Street Fighter. Non, c'est Street Fighter fait son truc. On laisse passer quelques mois. Mortal Kombat fait son truc. On laisse passer quelques mois et on sort Tekken. Et la communauté des jeux de combat, de manière globale,
ils sont contents.
Tout le monde est content. Et ces gens, ils sont chauds, ils sont à fond. Putain, on a plein de bons jeux. On a un Street Fighter qui est génial. On a un Mortal Kombat qui est génial. Il y a un Tekken qui arrive. Go, on achète Tekken parce qu'on est méga chaud. On est voilà, ça marche, tu vois. C'est une philosophie qui fonctionne.
Bien sûr.
Alors que sortir et machin, ouais, on sort en même temps les gens, ils vont soit choisir Sonic et on va les niquer, les mecs de Nintendo. Non.
Surtout, si tu mets pas les moyens dans le jeu d'être au niveau de l'autre. Enfin, je veux dire, en sachant que c'est un studio sous-traitant qui fait ton jeu, tu sais très bien que ça peut pas être au niveau du nouveau Mario fait par Nintendo qui voilà, non.
C'est dommage, il y a des façons de gérer ça de façon un peu plus intelligente. Voilà. Je sais pas si c'est un jeu que je recommanderais même aux gros fans de Sonic, quoi.
Ouais. Non, c'est malheureux, hein. C'est vraiment raté, quoi.
À voir. Voilà, c'était donc pour Sonic Superstars. C'est dispo sur un petit peu tout, hein, sur Xbox, sur PlayStation et évidemment sur Nintendo Switch. On a joué un autre truc bizarre. En tout cas, moi, j'ai joué un autre truc bizarre cette semaine. Et c'est sans doute le truc bizarre, le plus bizarre auquel j'ai joué depuis longtemps. J'ai joué à Fortnite. Et dans Fortnite, j'ai joué à Alan Wake.
Oui, c'est vrai.
Qu'est-ce que c'est? Alors, Epic, non, c'est marrant, mais finalement, ça a bien marché. À Epic a sorti ça à l'intérieur de Fortnite. Alors, tu sais, t'as toujours eu ces modes de jeu custom, machin. Mmh. Et de temps en temps, il y en a qui sont créés par Epic. Et là, c'est un truc qui est créé par Epic. Ils ont créé un flashback d'Alan Wake, un genre de résumé des épisodes précédents pour préparer la sortie d'Alan Wake 2 la semaine prochaine. Et donc c'est à l'intérieur de Fortnite, tu vas pouvoir explorer un petit peu cet univers-là, voir, revoir les scènes, les principales scènes d'Alan Wake pour te rappeler un petit peu quelle était l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé à ce pauvre Alan Wake, où il est, pourquoi il s'est mis dans la situation où il est au début de Alan Wake 2. Et ça marche très très bien, hein. C'est assez bien réalisé. Bon. Il y a un petit peu de dissonance, tu vois, je veux dire, il y a Alan Wake qui lui arrivait des trucs horribles, là, il était avec sa lampe torche à essayer de repousser des espèces de fantômes bizarres, et moi j'étais là au milieu avec Optimus Prime à danser au milieu, mais du coup c'est marrant, c'est marrant rigolo. Parce que sur le moteur de Fortnite, il y a une skin Alan Wake évidemment pour Fortnite, et tu revois les événements principaux, et ça c'est un petit peu un rappel d'histoire, donc voilà, si vous voulez vous rappeler de ce qui s'est passé dans Alan Wake avant de vous lancer dans Alan Wake 2, ça peut être un bon deal, hein. Rappelez, Fortnite c'est gratuit, la map elle est gratuite, tout est gratuit, vous installez ça, vous allez voir, c'est assez marrant.
Non mais c'est un clin d'œil rigolo, mais j'espère qu'il y aura un résumé au début d'Alan Wake 2 quand même.
Je pense que on verra, hein, mais j'espère que dans le jeu lui-même il y aura un résumé parce que voilà, c'est la suite directe d'Alan Wake.
Ça fait longtemps quand même.
Ça fait longtemps et il s'est passé des trucs. Il s'est passé des trucs et l'histoire est pas forcément simple.
Oui, voilà, donc.
C'est assez marrant. En tout cas, ça donne envie de jouer à Alan Wake. On verra ça la semaine prochaine. Mm-hmm. On l'a aussi dans les news, Alan Wake, on en reparlera tout à l'heure. J'espère que vous avez un gros PC. Assassin's Creed Mirage.
Bouh.
Bon, Aza n'aime pas Assassin's Creed Mirage.
Et toi non plus, c'est pourri. Pardon, hein, mais franchement, mais quel jeu de merde. Je suis désolé. Alors... Je suis désolé. Hein.
C'est un jeu qui... Alan Wake. Assassin's Creed Mirage, c'est un jeu qui a des très bons moments, mais ils sont un petit peu cachés dans des trucs qui servent à rien.
Mais il y a rien qui sert à rien dans ce jeu. L'histoire, elle est pour... on l'a fini. Hein.
Oui, on l'a. Voilà.
À la fin, tu comprends
pourquoi
rien.
Pourquoi on en parle? C'est parce qu'on a fini Assassin's Creed Mirage.
Tout est pourri. Le monde est pourri. Rien. Les activités sont pourries. Les combats sont pourris. L'histoire est pourrie. Non, mais je veux dire, ils ont fait combo complet là.
Ouais.
Je comprends pas. Hein.
Vu comme ça, c'est sûr. Mais
bah, c'est vrai.
Ouais, non, c'est pas désolé, terrible. Hein, mais... la fin tente de refaire le lien avec ce qui se passe dans Assassin's Creed Valhalla, mais n'y arrive pas trop.
On comprend rien.
Il y a un twist final qui est ce qu'il est. Hein. C'est un twist qui donne finalement son sens au titre. Hein. Le Mirage d'Assassin's Creed Mirage est assez intéressant. Mais bon, c'est du déjà vu, quoi. Que dire? Non, c'est un jeu qui met en place un petit peu le personnage de Basim qui a quand même un gros rôle dans Valhalla. Mais c'est pas bien réalisé. J'ai l'impression que ce moteur amélioré qu'ils ont fait pour les nouveaux Assassin's Creed, les Assassin's Creed qui sont plus RPG que les originaux, et pas très adapté à
un jeu comme ça.
À un jeu classique comme ça, tu vois. C'est un retour en arrière de parcours, c'est un retour en arrière de combat, c'est un retour en arrière de plein de choses. Mmh. Et c'est dommage. Hein. Ça fonctionne pas. À part quelques moments du jeu sont sympas. Il y a quelques assassinats, pas tous, mais quelques gros assassinats sont assez intéressants. De temps en temps, il y a des énigmes, des véritables enquêtes qui sont assez cool, avec des petits retournements. On a fait par exemple une enquête dans, je crois que tu étais là, tu jouais avec moi, dans un harem. Mmh. Voilà, c'était c'était un petit peu intéressant. Il y a eu un petit twist. C'était voilà. Il y a quelques scènes intéressantes au milieu de tout ce remplissage. Voilà. Les fans. Tout à l'heure, je disais, je ne sais pas si je recommande Sonic Superstars aux fans de Sonic. Si vous êtes vraiment fan d'Assassin's Creed, je pense qu'il faut faire Assassin's Creed Mirage. Il n'est pas long, il est un petit peu décevant, mais ce n'est pas non plus un engagement en temps extrêmement long. Ça peut être intéressant. Mais en gros, c'est une déception. Et j'espère que la série va se redresser un petit peu pour la suite. Pour Assassin's Creed, on n'a pas son titre, hein, mais le projet au Japon, qui devrait se révéler bientôt. Je l'ai pas mis dans les news d'ailleurs, mais c'est rigolo. Peut-être que je ferai un tweet ou un truc comme ça. Il y a un des mecs qui est à l'écriture d'Assassin's Creed sur son profil LinkedIn en illustration de profil en bannière, il a mis clairement une illustration d'Assassin's Creed Red avec le personnage, la protagoniste féminine, en gros, qu'on n'a jamais vu nulle part. Hein. Mm-hmm. Mais elle est là, elle est en gros, tranquille.
Il ne s'est pas fait engueuler, ce monsieur ?
Je pense qu'il va se faire engueuler, mais voilà. Il commence à y avoir des très très grosses fuites sur ce jeu, donc je pense qu'ils vont commencer à en parler, surtout si les rumeurs qu'on avait entendues, on les avait rapportées, comme quoi le jeu devrait arriver plus tôt que ce qu'on imagine, hein, dès l'année prochaine. On va commencer à en entendre parler.
Ouais, j'espère qu'ils ne font pas de la merde, quoi.
Eh ben écoute, ça sera la surprise de 2024. Aza, on va passer à l'actu, si tu veux bien. L'actu, c'est donc la sortie de Super Mario Bros. Wonder qui est disponible. Alors, il y a plein d'interviews, il y a plein de trucs tout autour de la sortie pour raconter un petit peu le développement. Et il y a un truc que j'ai retenu d'une interview, c'est une fonctionnalité du jeu qui a été coupée, qui n'a pas été conservée dans le jeu final. La possibilité d'avoir un commentaire en live de la partie.
Ah ouais.
Comme un match sportif.
Ouais, c'est rigolo.
Comme un match de Street Fighter. Ils l'ont fait dans Street Fighter 6.
Oui, dans Street Fighter, oui.
Et voilà, vraiment un commentaire play-by-play de ce que tu fais. C'est, oh là, il a sauté sur le Goomba, il a machin.
Ouais, ça doit être un peu chiant. Quand même.
Je sais pas si c'est chiant, si ça marche et tout, mais c'est... Voilà. Quand on parlait de tout le monde qui pouvait apporter ses propres idées, c'est peut-être une idée qu'ils n'ont pas gardée. Je sais pas, mais visiblement c'est une idée qu'ils ont poussée quand même assez loin. Ils ont des prototypes qui fonctionnent avec ce truc-là.
Ouais, mais ça peut être cool, hein. Mais bon.
Et il y avait la possibilité de sélectionner la personnalité de ton commentaire.
Bien sûr.
En exemple, ils ont dit tu avais la possibilité d'avoir une personnalité, ce qu'ils appellent en manga, en animé japonais, tsundere. C'est cet archétype de personnage, c'est ce personnage féminin qui est toujours systématiquement désagréable avec toi, qui machin, mais qui secrètement,
oui.
Qui est secrètement et quand même amoureuse de toi.
Oui.
ça aurait été drôle.
Ah, ça aurait été marrant. On devrait le mettre en DLC ou en possibilité.
Faire l'intégralité de Mario Wonder en commentaire de tsundere. il faut qu'il le fasse. Hein,
il faut qu'il le fasse.
Un DLC.
Ouais, il faut qu'il le fasse.
Après, à la place, on a les fleurs qui parlent avec les petites bulles là.
Ah oui, c'est rigolo.
C'est assez rigolo. Voilà. Nintendo aussi, ils sont très contents de ce qui se passe dans leur studio. Tout le monde est content. Tout le monde est tellement content. Et c'est Doug Bowser qui a répondu en interview. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de les employés Nintendo ne sont pas syndiqués?
Parce qu'ils sont contents.
C'est une discussion
qui est
voilà, c'était sa réponse. mais ils sont pas syndiqués. Mais c'est voilà, on a un très haut niveau de satisfaction de nos employés, donc ils n'ont pas besoin. Hein, c'est.
Bah, après. Peut-être. Bah
après, peut-être. Attention. Peut-être. Voilà. Tu sors pas des jeux comme.
Tu sors pas des jeux comme ça sans avoir une bonne équipe soudée.
Une bonne équipe qui arrive à sortir ses idées, qui est soudée, qui est machin. Et c'est un thème qui revient. Il y a un article de Jason Schreier qui est sorti cette semaine où il a eu un entretien avec. Je sais plus son nom, mais la productrice de Final Fantasy VII Rebirth. Donc, la deuxième partie de FF7 Remake. Et la question, c'est mais comment un jeu Rebirth a l'air gigantesque. Mm-hmm. C'est un truc de, c'est un projet complètement délirant. Comment vous avez fait de le sortir 4 ans après Remake? Comment, je veux dire, ça va trop vite. C'est moins de 4 ans, c'est 3 ans et mm-hmm. 8 mois, quoi, un truc comme ça. Comment vous avez fait pour aller aussi vite? Et voilà. Et le secret, c'est rétention de l'équipe, c'est cohésion. C'est voilà. C'est, on n'a pas eu besoin de changer les équipes. C'est les mêmes équipes, c'est les mêmes employés qui sont restés.
Bien sûr.
La continuité du travail. C'est des gens qui sont contents de travailler, qui ont un rythme soutenu. Ils sont pas en burn-out. On n'est pas obligé de les remplacer. Mm-hmm. Voilà. T'as une espèce de synergie de l'équipe qui est
efficace.
Si tu l'entretiens, elle fonctionne.
Bien sûr, c'est ça. L'efficacité de ton équipe, il faut s'en occuper, c'est efficace et c'est tout. Quoi.
Exactement. Voilà, donc ça va être... c'est intéressant si l'industrie du jeu vidéo commence à reconnaître ce genre de choses et se rend compte qu'il va falloir à un moment donné traiter les employés avec un petit peu plus de respect et les soigner un petit peu plus parce que voilà,
c'est ça.
Toutes ces histoires, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut tenir jusqu'au bout pour avoir des jeux qui tiennent la route.
C'est ça.
Pete Hines de Bethesda a annoncé sa retraite cette semaine.
Qui est cette personne?
Pete Hines, c'était un petit peu...
C'est celui qui fait les animations de visage de...
Non, c'est pas lui. Non, c'est un des grands patrons de Bethesda. Si tu veux, Bethesda, c'est Todd Howard et Pete Hines.
Ah d'accord.
Todd Howard étant plutôt le patron de Bethesda Game Studio. Mmh. Le studio de développement interne qui fait Skyrim, qui fait Starfield. Mmh. Et Pete Hines, lui, il est plutôt à gestion des studios globaux. Hein, les autres studios de Bethesda et tout ce qui est édition. Quoi, hein, donc c'est une grosse figure de Bethesda. Ça faisait 24 ans qu'il était, dans la boîte. Et voilà, il prend sa retraite. Hein, il dit voilà, nouveau chapitre de ma vie pour explorer des intérêts et des passions, consacrer mon temps là où je peux, voilà, pendant plus de temps, de profiter de la vie. Voilà.
À quel âge il a, ce monsieur ?
Bonne question, ça faisait 24 ans qu'il était là, mais quel âge est-il ? Mon avis, il est pas bien vieux, hein, attention.
Oui, ils prennent leur retraite assez jeune quand même, tous ces gens. Hein.
Mais quand tu vends des millions et des millions et des millions, je sais pas son âge, hein, c'est pas forcément une information publique. Mais il est extrêmement jeune. Hein,
il doit avoir 50 ans.
Ouais, il a la cinquantaine passée, mais la cinquantaine, quoi. Non, mais après, Starfield est critiqué à gauche, à droite, c'est pas exactement le jeu qu'on voulait, c'est peut-être un petit peu décevant, mais Starfield, c'est les plus grosses ventes de jeux du mois de septembre, c'est un carton au niveau des ventes, c'est un rouleau compresseur. En quelques jours, il est passé 7e des ventes de jeux de l'année.
D'accord.
Enfin, il a été vraiment se mettre...
Ah oui, ça a très bien marché en...
Alors, en plus, 2023, c'est une année qui est blindée de jeux qui se sont très bien vendus, avec des Harry Potter, avec des Zelda, avec des Star Wars, avec des FIFA, qui ne s'appellent pas FIFA. Mais voilà.
Et du coup, ça ne se vend plus.
Si ça se vend, non, FIFA, il marche. Hein. Le changement de nom, ça ne les a pas...
Ah, pareil.
Ouais, ça a bien marché pour eux. Non, ça se passe bien. Non, Starfield est un carton.
D'accord.
Voilà. Si on peut en parler pendant des heures et des heures et des heures, niveau gameplay, niveau jeu, voilà, niveau les attentes, les trucs. Mais
c'est un carton financier.
Commercialement, c'est un carton. Mm-hmm. Ça, il y a absolument rien à dire. Ils vendent des consoles, la Xbox a eu un boost de vente. C'est quelque chose qui a marché. D'un point de vue financier, tout le monde est très content de Starfield.
Mais après, c'est un jeu qui est...
C'est un super jeu.
C'est un jeu qui est pas mauvais non plus. Hein. Il y a des gens qui doivent être contents d'y jouer. Hein.
C'est un super jeu. Il faudra peut-être prendre un peu de recul par rapport aux attentes que les gens avaient.
Voilà,
et,
c'est ça.
Et s'adapter au fait que c'est pas exactement le jeu qu'ils se sont construits dans leur rêve pendant je sais pas combien d'années depuis qu'il a été annoncé. Mm-hmm. Mais voilà, le jeu, il est ce qu'il est. Il tombe au milieu d'une année très chargée en jeu de qualité et même en RPG de qualité. Mmh. Voilà. Mais sorti de ce contexte-là, il va trouver son public. Hein,
Bien sûr.
Et c'est comme Starfield, comme Skyrim. Starfield, c'est un jeu qui va se vendre pendant 10 ans. Donc,
c'est vrai.
Il n'y a aucun problème. Moi, je ne suis pas inquiet ni pour Bethesda, ni pour Starfield. Hein. Mais en tout cas, bonne route à Pete Hines. Et voilà, peut-être qu'on va le voir débarquer ailleurs à un moment donné, mais je pense que c'est vraiment... l'heure de la retraite pour lui. Phil Spencer, patron de Xbox, bon, il prend pas sa retraite, lui.
Ah non.
Mais il, voilà, il reconnaît que l'achat d'Activision Blizzard, bon, pour les joueurs, ça a été un petit peu. Bon, il s'est rien passé derrière, tu vois. Donc
il s'est rien passé. Hein.
Voilà. Donc, déjà, au niveau du Game Pass, tout le monde. Tout le monde espérait que les jeux débarquent sur le Game Pass immédiatement. Ça avait été le cas pour les jeux de Bethesda. Ils étaient arrivés sur le Game Pass très très rapidement, juste après le rachat. Là, pourquoi les jeux n'arrivent pas ? Donc, son explication, c'est que il y avait jusqu'au dernier moment, jusqu'au rachat final de la semaine dernière, il y avait beaucoup d'incertitudes. Ils avaient beau être super positifs publiquement en interview, à dire oui, ça va se passer, on est très confiants et tout. Jusqu'à la dernière semaine, ils n'étaient pas du tout confiants. Il se passait des choses en interne qui faisaient que ça pouvait capoter.
D'accord.
Voilà. Et cette incertitude fait qu'ils n'ont pas pu
mettre en place les choses à l'avance.
Voilà. C'est-à-dire que les jeux arrivent, mais il y a du travail et le travail commence maintenant. Mmh. Ils l'ont pas fait en amont, ils n'ont pas pu le faire en amont à cause de cette incertitude et à cause de la complexité du truc.
D'accord.
Donc voilà, ils reconnaissent que c'est pas idéal pour les joueurs, mais c'est des choses qui vont arriver. Donc effectivement, les jeux Activision Blizzard, à part peut-être une ou deux exceptions à gauche à droite, c'est plutôt des choses qui vont arriver en 2024. Sur le Game Pass. Après, voilà, il y a des petites opérations en parallèle, tu sens qu'il y a des communications qui sont facilitées. Tu vois, par exemple, il y a eu une offre d'essai ce week-end sur Xbox, Diablo 4, tu peux y jouer gratuitement tout le week-end.
D'accord.
Tu vois, et on va voir des choses apparaître comme ça, évidemment. Mais le gros du travail, ça va être l'année prochaine. Mmh. Même chose quand tu poses des questions aussi. Et maintenant que vous avez toutes ces licences, tous ces trucs, quand est-ce qu'ils sortent les jeux? Se calme. Mmh. On vient d'arriver. Si vous voulez voir des jeux de vieilles licences Activision Blizzard revenir sur le devant de la scène, alors déjà, ça va être entre les mains des studios, parce que la philosophie de Xbox par rapport à ces studios, c'est pas forcément de leur dicter ce qu'ils doivent faire, mais plutôt les laisser faire ce qu'ils ont envie de faire.
Mais ça va être ça pour Activision Blizzard ?
Alors, je pense que ça va être au cas par cas.
Quand ils ont acheté Bethesda, ils étaient effectivement plutôt capables de faire leur jeu tout seul. Activision Blizzard, je ne suis pas sûr que ce soit le cas.
Ouais, mais voilà. Il explique, s'il y a des équipes qui veulent ressortir une vieille licence et faire un Crash Bandicoot, et faire un Tony Hawk ou faire un Guitar Hero, il va les soutenir à fond. Mmh. Mais voilà, il faut que les équipes aient envie de le faire. Et je pense que oui, parce que là, actuellement, les équipes Activision, c'est tout le monde sur Call of Duty.
Mais c'est ça le problème, c'est qui les dirige, les équipes, là ?
Bah là, ça va être lui.
Ben voilà, parce que Bobby Kotick, il se barre, et là, la hiérarchie de Activision Blizzard, c'était tout le monde sur Call of Duty.
Ouais. Il va falloir être derrière un petit peu, effectivement.
Voilà, à mon avis, il y a quand même un remaniement qui est indispensable à faire et mettre en tout cas des gens
qui
dirigent ce truc-là.
Et je pense qu'il en a conscience, parce que les jeux sans aucune direction et en laissant faire et en laissant carte blanche...
Ça s'est pas bien passé chez Bethesda.
Ça donne du Redfall.
C'est Bethesda, Redfall.
Ouais, c'est Bethesda. Enfin, c'est... C'est Arkane.
Non.
Si... Redfall, c'est Arkane, mais Arkane, c'est un studio Bethesda.
Voilà, ok.
Tout à fait. Donc ouais, non, ça fonctionne pas forcément très très bien.
Ouais.
Donc il faut être un petit peu derrière, il faut suivre, il faut que les jeux sortent, tu vois. Mais ça, ce qu'on voit, les jeux sont pas encore sortis, hein, mais ce qu'on voit dans les jeux annoncés, c'est quand même de la créativité, des trucs. Justement, ce que je reproche à PlayStation, c'est là, on va avoir des jeux qui sont différents de ce qu'on aurait eu, tu vois, des trucs un petit peu plus originaux. Mmh. C'est à la fois, on va ressortir des vieilles licences qu'on n'avait pas vues depuis des siècles, comme Fable, ou alors on va avoir des nouveaux jeux. Donc, on va attendre qu'ils sortent pour voir la qualité, mais on espère avoir des nouveaux trucs. Et on espère, par exemple, que l'équipe qui avait fait les remakes de Tony Hawk 1 et 2, là, et qui était vraiment excellent, sous Activision, cette équipe-là, en récompense d'avoir fait un remake aussi bon, on l'a dit, bon, maintenant, vous arrêtez et vous allez chez Blizzard et vous travaillez sur Diablo. C'est dommage, tu vois. Mmh. À chaque fois qu'il y avait une équipe qui sortait un truc original qui marchait bien, ça marche bien, vous êtes une bonne équipe, donc vous allez bosser sur Diablo, vous allez bosser sur Call of Duty et vous arrêtez de faire des trucs originaux. Et ça, c'est une dynamique qui était dommage à l'époque d'Activision. Et j'espère qu'ils vont réussir à sortir de là, à réussir à redonner à chaque studio son identité. Mais des studios comme... des studios Activision, il y a un studio qui s'appelle Toys for Bob qui est spécialisé là-dedans, dans des jeux un peu plus enfantins, un peu plus machin. Faire bosser ces gens-là sur Call of Duty, c'est débile.
C'est débile, tu vois.
Mais actuellement, c'est ce qui se passe.
Ben oui, mais si ces gens-là, ils bossent sur Call of Duty, c'est qu'ils n'ont pas assez de personnel pour bosser sur Call of Duty à côté. Donc, il faut embaucher des gens aussi.
Oui, alors peut-être qu'on peut optimiser aussi Call of Duty.
Oui, optimiser. Il faut revoir le... En tout cas, pour permettre à ces studios-là de bosser sur des projets originaux, il faut quand même aussi arriver à faire tourner derrière toutes les grosses licences qui sont... qui doivent tourner comme Call of Duty, comme World of Warcraft, comme Diablo. Enfin, tous les trucs qui doivent continuer à... Enfin, je veux dire, Warcraft est obligé de sortir des extensions, quoi. Il faut des gens qui bossent dessus.
Tout à fait, mais...
Il faut des équipes qui travaillent dessus, quoi.
Il faut que ça soit fait intelligemment.
Ben oui, ouais, c'est ça.
Alan Wake 2 va sortir bientôt, là. Ça sort vendredi. Alors, on rappelle que c'est une sortie un petit peu particulière pour Alan Wake 2. C'est Epic qui publie le jeu. Sur PC, le jeu sera disponible uniquement sur l'Epic Game Store. Et sur console, le jeu sera disponible uniquement sur les stores digitaux des consoles. Hein. Il n'y a pas de version boîte d'Alan Wake qui sort.
D'accord.
Ça leur permet a priori de garder le jeu un petit peu plus bas, on sera pas à 80€ pour Alan Wake 2, ce qui est une bonne nouvelle, mais ne cherchez pas la version boîte, vous la trouverez pas. Cette semaine, Remedy a dévoilé les prérequis techniques pour votre PC pour faire tourner le jeu, et ils sont extrêmement extrêmement élevés.
D'accord.
Donc attention, si vous avez un petit PC, faites gaffe. Alors bien entendu, niveau stockage, c'est du SSD obligatoire. Mais voilà, pour avoir la configuration recommandée pour jouer en graphisme médium, c'est des cartes graphiques chez Nvidia série 3000. Voilà, c'est quand même des cartes récentes, pas forcément...
D'accord.
Un petit peu coûteuse. Voilà. Et pour jouer en ultra, il faut des séries 4000, donc les plus récentes. Et ça, c'est sans ray tracing.
D'accord.
Tu commences à activer le ray tracing, il faut du 4000 partout. Avec une 3000, tu joues en qualité basse, à basse résolution. Et là, à ce moment-là, si tu as de la chance, tu atteins 30 images par seconde. Quoi.
D'accord.
Donc attention, attention à ça. Alors, il faut aussi mettre un bémol là-dessus, parce que bon, c'est Remedy, c'est aussi les mecs qui ont fait Control. Contrôle en qualité très basse était magnifique.
Oui, voilà, hein, c'est ça.
C'est quand même, c'est un studio qui a l'habitude techniquement de repousser les limites. Et ce que eux ils appellent bas entre guillemets, c'est tout à fait satisfaisant.
D'accord.
C'est pas forcément moche. Hein, donc il faudra tester un petit peu. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui va repousser les limites techniques. Ils ont l'air très fiers techniquement de la fidélité graphique qu'ils ont réussi à obtenir. Et c'est un jeu qui va vraiment repousser les limites. Et c'est le genre de jeu, tu sens que c'est le genre de jeu que tu vas ressortir dans 2 ans, 3 ans, 4 ans quand tu as ta nouvelle carte vidéo. C'est le premier truc que tu as lancé, c'est Alan Wake 2 pour voir comment ça tourne. Tu vois. Mais attention, si vous avez un tout petit PC, gaffe. Ce week-end à Londres, c'est le FanFest de Final Fantasy 14. Mm-hmm. Donc plein d'annonces. Hein. Ils en font un petit peu sur tous les continents. Rappelle-toi, il y a quelques semaines à Las Vegas, ils avaient annoncé la nouvelle extension.
Ouais.
Dawn Trail. Là, c'est la nouvelle FanFest à Londres. Ils ont annoncé une des nouvelles classes pour cette extension. Mm-hmm. Donc l'une des nouvelles classes, ça va être la Vipère.
La Vipère.
La Vipère, Viper en anglais. C'est une classe de dégâts corps à corps, avec deux armes, deux épées.
Ouais.
Mais deux épées que tu peux attacher l'une à l'autre pour faire un truc double lame, un peu comme dans les missions de Star Wars.
Ok.
Donc voilà, ça a l'air une classe de dégâts au corps à corps rapide basée sur l'agilité, ça a l'air intéressant.
D'accord.
Il y a une deuxième classe qui sera dévoilée, ça va être au prochain FanFest, c'est au Japon en janvier. Mm-hmm. Et ça sera une classe, on l'avait dit, hein, une classe de dégâts magiques à distance.
D'accord.
Donc voilà, on attendra. Ils ont aussi annoncé des collaborations entre... alors on connaissait déjà la collaboration entre Final Fantasy XIV et Fall Guys, hein, pour avoir les bonhommes de Final Fantasy XIV dans Fall Guys. Là, la nouvelle collaboration, c'est avec Final Fantasy XVI, évidemment.
Ah.
On s'y attendait. Donc, ça va être un événement dans Final Fantasy XIV sur des thèmes de Final Fantasy XVI.
D'accord.
D'après les premières images qu'ils ont montrées, il va y avoir un combat, au moins un combat de boss contre Ifrit. Mmh. Ce genre de choses. Voilà, des trucs qui vont être très inspirés de Final Fantasy XVI avec des cosmétiques, avec des trucs qui vont bien.
D'accord.
Tu vas pouvoir sans doute habiller ton personnage comme Clive ou.
Oui, tout à fait.
Ou Courgette, comment elle s'appelle ?
Courgette.
C'est ça. On a compris.
non, je me rappelle plus comment elle s'appelle. C'est Courgette.
Comment elle s'appelle ? C'est pas possible.
Courgette, elle s'appelle. Endive.
Comment elle s'appelle ? Elle avait un nom. Merde.
Jill.
Putain. Merci.
Endive.
On parlait de performance avec Alan Wake 2. On va aussi parler de performance sur Cities Skylines 2. Cities Skylines 2, c'est un jeu donc de gestion urbaine. Hein. Tu fais ta ville un peu à la SimCity. Mmh. Le premier a quelques années maintenant, mais il est vraiment excellent. Et le deuxième arrive cette semaine. Ça sort sur PC, c'est sur le Game Pass. On avait fait la news il y a quelques semaines. La version console est repoussée à l'année prochaine, mais la version PC arrive. Alors, ils avaient repoussé la version console parce que d'un point de vue performance, ils n'avaient pas réussi à faire ce qu'ils voulaient, donc il faut travailler un petit peu plus. Là, cette semaine, ils annoncent que la version PC, ils n'ont pas non plus réussi hein, la performance. Ça ne va pas du tout. Et ils ont fait un post.
Sort quand même parce que. Bon.
Voilà, c'est un peu, on est un peu obligé de la sortir, mais vous n'allez pas être content. on prévient à l'avance, ça va être la merde. Nous n'avons pas atteint les performances que nous avions ciblées. Mais bon, pour eux, c'est important de sortir le jeu pour qu'il tourne sur un maximum de machines différentes et qu'ils puissent optimiser tout ça.
Mmh,
mais les performances seront mauvaises.
ça donne envie.
Ouais, ça donne envie. Hein, je veux dire, de façon anecdotique, hein, j'ai vu des gens faire tourner le jeu sur des énormes machines et obtenir 8 images par seconde.
Donc ça en même temps, il se passe rien dans Cities Skylines. Tu peux avoir 8
ouais,
images
voilà,
par
non,
seconde.
C'est, ça,
ça
c'est pas comme si tu devais faire un contre comme dans Spider-Man. Quoi. C'est, non, ça va. Quoi. Si c'est pour voir tes immeubles pousser. Mais ouais, c'est un petit peu décevant. Donc attention. attention, si vous êtes fan du genre et que vous voulez acheter le jeu, peut-être attendez un petit peu d'avoir des retours. Si vous allez sur le Game Pass, allez-y, testez, hein, c'est cool.
Oui.
Mais si vous voulez mettre de l'argent dans le jeu, c'est un petit peu compliqué. Autre aspect décevant du jeu, c'est que tout ce qui est gestion des modes va arriver un petit peu en retard. Ça sera pas disponible à la sortie du jeu, alors que c'était pour Cities Skylines 1, c'était quand même un petit peu le cœur du truc, hein, c'est pouvoir importer des bâtiments, des trucs comme ça, des machins. Il y avait tout un atelier qui te permettait de faire tes propres trucs. Voilà, tout ça.
Oui, donc c'est vraiment pas fini.
C'est quelque chose qui arrive plus tard. Mais c'est le problème qu'ils ont souvent quand ils sortent des suites de ces très gros jeux. Des jeux qui ont eu des années de vie et de mise à jour et de trucs en plus.
Et oui, c'est difficile de sortir un nouveau.
Tu vas ressortir un nouveau qui va revenir aux bases, qui va revenir. Alors qui va sans doute se développer et avec au fil du temps devenir aussi intéressant et ensuite plus intéressant que l'original.
Ouais, mais il y a toujours une phase où c'est.
Il y a toujours une phase où
c'est frustrant
compliqué.
Pour les joueurs. Quoi.
C'est des choses qu'on voit récemment. On a vu ça récemment avec Payday. Hein. Payday 3, ils ont sorti. Mais bon, les fans ont tendance à revenir au 2 parce qu'il y avait plus de trucs, c'était plus intéressant. Le 3, il déçoit un petit peu. Mais le 3 va s'étoffer. Hein. Mm-hmm. Mais l'année dernière, on avait eu ça sur Kerbal Space Program. Le 2 qui était sorti avec beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de fonctionnalités. Et c'est vieux comme la nuit des temps. Hein. Quand ils avaient sorti les Sims 4, tout le monde dit mais pourquoi il n'y a pas tous les trucs qu'il y avait dans les Sims 3 ? Ben, y a pas, parce qu'on va te ressortir toutes les extensions au fur et à mesure. Quoi. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc attention à voir. Sony, retournons un petit peu chez Sony. Qu'est-ce qui se passe ? Ils ont déposé un nouveau brevet. C'est un brevet qui, sur une nouvelle manette PlayStation, un nouveau modèle de manette PlayStation 5, alors tu vas pouvoir l'ouvrir pour mettre tes écouteurs dedans et charger tes écouteurs à l'intérieur de la manette et pas les perdre accessoirement.
Mais des écouteurs.
Oui, pas un gros casque, hein, ça rentre pas.
Mais non, mais j'ai compris, les petits écouteurs.
Les petits écouteurs PlayStation, hein, les trucs qu'ils ont sortis, ça vaut une fortune. Tu vas pouvoir les mettre dedans pour les charger à l'intérieur de ta manette. Voilà. Si t'avais l'impression que la batterie de ta manette durait un peu trop longtemps, ça va pouvoir permettre de.
Mais elle dure 2 minutes.
Ouais. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais voilà, c'est un nouveau. On va voir ce que ça donne. Hein.
Non, j'ai juste une anecdote. Je trouve que Poupie, elle sent la pizza.
C'est pas normal.
Non, c'est pas que c'est pas normal. C'est, je pense qu'on est, on est bien malade.
Ouais, voilà, c'est ça. c'est ça. On se rapproche de la sortie le mois prochain du nouveau Like a Dragon, Like a Dragon Gaiden. C'est cet épisode un petit peu plus court qui va raconter les aventures de
Kiryu
pendant les entre les événements de Yakuza 6 et Like a Dragon 8. Donc le jeu arrive le 9 novembre. Sega prévient qu'à la sortie du jeu, il n'y aura qu'un doublage japonais disponible.
Ah.
Ça faisait pas mal d'épisodes qui avaient également des doublages anglais.
Mmh.
Le doublage anglais ne sera pas prêt pour la sortie du jeu. Il sera rajouté avec une mise à jour un petit peu plus tard. Voilà.
Bon, après, pour nous, ça nous impacte pas trop parce que
c'est
on
vrai
a tellement l'habitude de le faire en japonais.
Ouais,
que,
ouais, c'est des
bon,
jeux
voilà.
qu'on a l'habitude de faire en japonais, mais je sais que parmi nos auditeurs, il y a des gens qui jouent à Yakuza en anglais. Mm-hmm. Donc voilà.
Mais il y aura quand même des sous-titres.
Il y aura des sous-titres français.
Voilà. Ça, c'est le plus important.
Tout à fait.
Hein.
Le jeu sera sous-titré en français sans aucun problème. Mais voilà, l'audio anglais, ça arrivera un petit peu plus tard. Soyez informés. Mais bon, ça c'est quelque chose qu'on va suivre de près. Netflix, vous savez que Netflix aime bien sortir des séries basées sur des jeux. Hein, c'est, voilà.
Ou sortir des jeux basés sur des séries. Hein.
Ah bah maintenant, ils se lancent dans un nouveau concept. Hein, ils vont sortir des jeux basés sur des jeux.
Ils sortent des jeux basés sur des jeux.
Voilà, ils vont sortir des jeux basés sur des jeux. Et
parce que moi, maintenant, à chaque fois que j'allume Netflix, il me met une pub pour le jeu Séduction, Haute Tension, je sais pas quoi.
C'est ça.
Donc, ils font des jeux basés sur leur série pourrie, quoi.
Ah ouais, non, mais ouais. Ça, c'est... Là, ils vont faire un... Ils ont dit qu'ils cherchent à obtenir les droits pour faire des jeux dans l'univers de GTA.
Ah, carrément.
Carrément. Donc Netflix veut faire son propre GTA, mais un GTA officiel sous licence GTA. Je sais pas à quoi ça va
mais attends,
ressembler.
Mais ils vont leur donner la licence GTA.
Et ils vont leur vendre.
Non, mais je sais, mais ils vont payer aussi cher pour...
Alors, je sais pas. Je sais pas les prix. Visiblement, c'est un projet. Hein, c'est pas encore fait.
Mais que Netflix... Alors Netflix, sont gentils.
Netflix, ils veulent avoir une présence de plus en plus grosse dans l'univers du jeu vidéo, faire de plus en plus de jeux. Alors ça avance un petit peu doucement, hein, mais ils avaient racheté des studios, ils ont racheté Nice School pour faire Oxenfree 2. Oxenfree 2, c'est un jeu Netflix, hein, officiellement.
Non, mais je sais, mais si le jeu le plus ambitieux qu'ils ont fait, c'est Oxenfree 2, ils n'en sont pas encore à GTA, quoi.
Ouais, là, c'est le grand écart. Hein. Voilà, c'est
extrême. Ou alors, peut-être qu'ils veulent faire des modèles de GTA pour portable ou des trucs comme ça, quoi.
Non, c'est vraiment, ils veulent faire des gros jeux. Hein. Voilà. L'année dernière, en novembre de l'année dernière, ils avaient annoncé qu'ils avaient monté un nouveau studio de jeux vidéo à Los Angeles, hein, qui était mené par un ancien patron d'Overwatch, Shaco Sony, pour faire des gros jeux, vraiment des jeux gros budget. C'est décrit comme un jeu de rôle à la troisième personne pour PC.
D'accord.
Voilà.
Et donc,
presque ces jeux, tu pourrais jouer en natif sur PC. Tu pourras sans doute aussi les streamer sur des trucs parce que Netflix c'est un petit peu leur truc là. Mais là, ils seraient en discussion avec Rockstar pour sortir un jeu dans l'univers de Grand Theft Auto via un système de licence.
Ok. Bah écoute.
Voilà. L'info vient du Wall Street Journal. Hein, c'est pas une rumeur à la con. Ça a l'air quand même relativement solide.
Est-ce que le Wall Street Journal...
Ouais, après, c'est pas non plus...
Les journalistes, hein, c'est plus ce que c'était quand même.
Ouais,
hein.
Mais c'est pas non plus un tabloïd, quoi. C'est...
Ouais.
Il y a souvent du vrai.
Ouais, écoute, on va voir s'ils s'en sortent. Hein,
on va voir, pourquoi pas. Hein,
c'est pas gagné.
On va voir ce que ça donne, en tout cas. Par contre, Netflix, ça marche bien. Hein, ils ont attiré des tonnes d'abonnés en plus. Ils ont... publié leurs résultats récemment, hein, donc ça fonctionne très bien. Ils ont des millions d'abonnés en plus par rapport à la période précédente.
Ah bon ? Pourtant, ils ont augmenté leur prix, c'est bizarre.
Ouais, mais ils les réaugmentent encore une fois, donc tout va bien. Non, ça commence à devenir cher Netflix.
J'ai pas compris. Pourquoi ils réaugmentent ?
Ils ont réaugmenté encore leur prix cette semaine.
Ah bon ?
Ouais.
Mais t'as mémé ?
C'est ça. C'est ça.
Et donc, il publie un truc en disant on a des millions de nouveaux abonnés, c'est trop bien.
Et pour fêter ça, on augmente les prix. Voilà.
Pour fêter ça, on augmente les prix.
Déclaration du patron de Netflix, ça a été et qu'est-ce que tu vas faire ? Arrêtez de regarder.
Et, ouais.
Et peut-être. Hein.
Peut-être, voilà. Parce que maintenant, les autres plateformes. Moi, je suis souvent, souvent sur Apple TV en ce moment. Hein. Il y a pas mal de trucs.
Pas mal de trucs sur Apple TV.
Bon, après, il n'y a rien qui vaut les documentaires Netflix. Hein. Je suis désolée.
Ah, ça.
Ça, malheureusement, les autres plateformes, ils font pas d'efforts là-dessus. Hein. Que ce soit Amazon ou Apple, documentaire, ça va pas du tout.
C'est dommage.
Netflix, j'en ai un par jour qui sort. Quoi.
Mais voilà. Ça, mais pour ton addiction.
C'est ça.
L'AGDQ 2024 aura lieu au mois de janvier. L'AGDQ, c'est le Awesome Games Done Quick. C'est une compétition de speedrunner. Cette année, il y aura un chien qui va speedrunner un jeu. Peanut Butter, un Shiba Inu, va speedrunner Gyromite sur NES.
Quoi ?
Peanut Butter, c'est un Shiba Inu. Il va speedrunner Gyromite sur NES.
Mais c'est quoi Gyromite ? C'est un truc qui est jouable par des chiens ?
Son record est sur YouTube actuellement. Hein, son record est de 25 minutes et 29 secondes. Il va tenter de battre ce record en direct à la GDQ en 2024. C'est un chien, oui. Alors...
Non, mais c'est-à-dire... Parce que moi, les chiens que je connais, ils n'arrivent pas à se concentrer pendant 25 minutes. Hein.
Ah, celui-là, bah, si, il faut des croquettes, hein, mais il est à fond. On va remettre ça dans le contexte, hein, pour Gyromite, pour les gens qui ne connaissent pas.
Je ne comprends pas.
Je sais, alors, c'est... À l'époque de la NES, il y avait un robot. Tu le vois, le robot de la NES, Rob le robot ?
Pas du tout.
Chez vous, faites Google Rob le robot NES. C'était un accessoire qui était sorti en même temps que la NES à l'époque. Mmh. Je l'avais, c'était trop bien. C'était un petit robot qui avait deux petits bras. Il était tourné de façon à ce que ses yeux voient l'écran, parce qu'il recevait des informations comme ça. Et en fait, le principe, c'est que tu pouvais donner des instructions au robot, et c'était basé sur des toupies, en fait. Le robot, il avait un petit moteur qui permettait de faire tourner les toupies. Mmh. Et il avait deux boutons pour appuyer sur les boutons. Et en fait, tu contrôlais le robot pour lui faire prendre la toupie, la soulever et aller la poser sur les boutons. Et la toupie, elle tournait, elle laissait le bouton appuyé parce que la toupie, elle tournait sur le bouton. Mmh. Pendant un certain temps, parce qu'au bout d'un moment, la toupie, elle tombe. Donc, il fallait reprendre la toupie et la recharger dans le petit moteur pour refaire tourner parce qu'elle finit par tomber. Hein,
j'ai rien compris.
Moi, je me comprends. Bref.
C'est ça qui fait
Gyromite. Non, c'est pas ça qui fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Gyromite, c'est un jeu très simple. Il y a bouton A, bouton B. Il faut laisser appuyer sur le bouton A et laisser appuyer sur le bouton B suffisamment longtemps pour laisser le petit bonhomme passer sur les portes que tu ouvres. C'est un jeu extrêmement simple que tu faisais avec le robot. Là, c'est le chien qui va le faire avec l'aide de son maître. Évidemment, hein, le chien n'est pas laissé tout seul dans la pièce à jouer au jeu.
Ah bah attends.
C'est avec l'aide de son maître, mais son maître lui fait appuyer sur le bouton A, sur le bouton B, laisser appuyer, il sait faire les trucs et il fait le jeu.
Sérieux ?
Voilà. On va regarder. Hein.
On peut faire ça avec Poupy, tu crois ?
Non, elle est beaucoup trop con.
Ah non, c'est pas qu'elle est trop con, c'est que 25 minutes à faire des conneries, tu vas te faire foutre, quoi,
ouais,
surtout.
C'est pas possible. Voilà, c'était la news la plus importante de la semaine. On
Peanut
passe
Butter, quoi.
Moi, j'y serai. Hein. Je serai là en direct à encourager Peanut Butter. Beaucoup de sorties cette semaine. Hein. J'espère que vous êtes prêts et que vous avez du temps libre, hein, que vous avez déjà fini tout ce qui est sorti la semaine dernière. 24 octobre, c'est demain mardi, sortira sur PC et le Game Pass Cities Skylines 2.
Qui marche pas.
Qui marche pas, on en a parlé. Oh. Le même jour, sortira sur PlayStation 5 et sur PC Lord of the Rings Return to Moria. Celui-là, a priori, il marche. Lord of the Rings Return to Moria, c'est un jeu de survie dans la Moria, tu joues des nains.
Ah oui, ça avait l'air bien.
Ça avait l'air correct.
Ouais, le truc avec les nains, là.
Ça avait l'air pas mal, donc à surveiller. Il y a John Rhys-Davies, l'acteur qui fait Gimli, qui reprend son rôle dans ce jeu.
Super.
Voilà.
Putain, il doit être vieux, hein.
C'est possible. Toujours mardi 24 octobre, sort sur Xbox Series X, PlayStation 5 et sur Switch et sur PC. Metal Gear Solid Master Collection Volume 1, la compilation qui reprend Metal Gear Solid 1, 2 et 3. Et également Metal Gear 1 et Metal Gear 2, les versions NES et je sais plus sur quoi c'était sorti. Donc voilà, compilation de tous ces vieux jeux.
Mais c'est vieux jeux tout court, hein.
Voilà, c'est les vieux jeux tout court, tout à fait. Voilà, si vous espériez des remasters ou des versions Super HD ou des trucs comme ça, non, c'est vraiment... C'est les jeux d'origine. Voilà, d'après les premières infos qu'on a, ils se sont pas énormément cassés la tête, puisqu'on a Metal Gear Solid 1 qui tourne à 30 images par seconde. On a, voilà, c'est vraiment pas des trucs qui sont très, très améliorés. Mais bon, pour les puristes et qui veulent le jeu tel qu'il existait à l'époque, ça peut être une solution. Jeudi 26 sort la version Switch de Dave the Diver, hein, qui est une grosse recommandation de la Belle et Gamer. C'est un jeu qu'on aime beaucoup. Il est sorti en début d'année sur PC. Il y a eu plein de mises à jour depuis. Il y en a eu encore une nouvelle récente qu'il faudra qu'on teste. Et la version Switch arrive donc jeudi. Ghost Runner 2 sort également ce jeudi sur Series X, sur PS5 et sur PC. Action hyper rapide à la première personne, ça a l'air tout à fait fun. Hein. Les fans du premier Ghost Runner savent de quoi ils parlent. Et vendredi 27, PS5, Series X et PC, Alan Wake 2. Voilà, d'accord. Ça on en a parlé. Alan Wake 2 qui va faire un petit peu peur. Aux ordinateurs et aux gens. voilà, une bonne semaine qui se profile. Merci à tous de nous avoir suivis.
Merci à tous.
On vous souhaite une excellente semaine et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye.
Salut.